départ pour les États-Unis avec la visite d'un musée dans la banlieue de Chicago, un musée consacré à C.S. Lewis, l'auteur qui a inspiré le film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, le film Disney sorti cette semaine sur grand écran. Michel Cocher au micro, Madeleine Rossi pour la réalisation, Gilles Ozaman en régie. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue.
À vue d'esprit.
Sarah, je t'ai vu tout à l'heure, tu as ouvert l'armoire et tu as regardé quelque chose au fond. Qu'est-ce que tu as regardé?
Narnia, but it's not there.
J'ai voulu voir Narnia, mais il n'y avait absolument rien, il n'y avait que le fond de l'armoire.
Est-ce que tu étais déçue?
Yes.
Oui, évidemment.
Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ce matin si tu avais eu l'occasion d'entrer dans le monde de Narnia?
I don't know. Something.
Est-ce que tu aimerais faire comme Lucie?
Yes.
Et avoir la possibilité de rencontrer le lion?
Yes.
Qu'est-ce que tu demanderais au lion si tu avais l'occasion de le rencontrer?
I don't know.
Je ne sais pas. La petite Sarah ne sait pas que demander au lion Aslan, l'un des héros du film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Alors Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes donc rendu à Chicago et vous avez visité ce musée consacré, ça paraît surprenant, consacré à C.S. Lewis, et un musée qui abrite une armoire, pas si magique que ça.
Oui, effectivement, au vu de Sarah, un petit peu déçue. Alors j'ai eu l'occasion de voir cette armoire, qui est effectivement une armoire qui a appartenu à C.S. Lewis lors d'un voyage à Chicago. Je suis allé là-bas voir ce musée qui n'est pas que consacré à C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia. Il est consacré aussi à d'autres auteurs assez majeurs de la littérature anglaise. Ce musée se trouve dans la banlieue ouest de Chicago, à Wheaton. Alors bienvenue au centre Wade, juste à côté du Wheaton College. On entre là dans le musée. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on a ici un portrait de C.S. Lewis. Un portrait qui le représente alors qu'il devait avoir une cinquantaine d'années, j'imagine.
Oui, une peinture à l'huile qui a été faite par un certain T.M. Williams, l'artiste.
Et alors, juste en face de ce portrait de C.S. Lewis, on a un autre portrait de Dorothy L. Sayers. C'est aussi une autre écrivain que l'on trouve dans ce musée. Qui est cette dame?
Eh bien, elle est morte en 1957. C'était un penseur, une femme de pensée et écrivain aussi qui a eu beaucoup d'influence ici en Amérique sur la littérature d'origine anglaise.
J'ai cru comprendre que Dorothy Sayers était une auteure de polar, est-ce exact?
Oui, des romans un peu de toutes sortes, mais avec toujours une morale chrétienne.
On entre là dans ce musée, et ce qui frappe tout de suite, Gilbert Bilezikian, c'est qu'il y a ici, sur notre droite, une armoire. Est-ce que vous pourriez en quelques mots me la décrire, cette fameuse armoire chère à tous les fans de C.S. Lewis?
Oui, alors c'est une armoire comme on en faisait d'antan en Angleterre. Elle est faite en chêne de couleur foncée, marron foncé, très ornée avec des bas-reliefs, des motifs réguliers, symétriques.
Alors, ce qui semble, c'est que ce soit en fait le grand-père de C.S. Lewis qui ait sculpté et qui ait confectionné cette armoire.
Oui, en effet, lui-même, ce grand-père de C.S. Lewis devait être un artiste parce que c'est un objet très joli. Alors, l'armoire a deux portes, deux battants.
Alors, on va ouvrir l'un des battants, voilà, c'est fait.
Vous avez entendu le battant grincer alors que...
Voilà, alors il y a un petit loquet en bois, voilà, et on a cette armoire qui est ouverte devant nous. Alors, aux surprises, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'armoire?
Surprise, à l'intérieur de l'armoire, il y a des vêtements d'un ancien temps, un manteau, des fourrures.
Oui, ce sont vraiment des manteaux de fourrure.
Oui, sans doute qu'il y en a un qui a dû appartenir à C.S. Lewis, puis il y a des manteaux de femmes aussi.
Ce qu'il y a aussi d'intéressant ici, Gilbert Bilezikian, c'est un avertissement qui est posé contre le battant de cette armoire, contre la porte de cette armoire. Est-ce que vous pourriez me dire ce que cet avertissement renferme comme contenu?
Alors, il y a un petit avertissement qui dit « Attention ». Le Wade Center n'est pas responsable pour ce qui pourrait vous arriver ou pour votre disparition au cas où vous entreriez dans l'armoire.
Donc on est là en fait dans le monde de l'armoire magique au travers duquel la petite Lucie va pouvoir pénétrer de manière extraordinaire dans le pays de Narnia. On va gentiment refermer cette armoire, Gilbert Bilezikian. Est-ce que vous-même, vous auriez, comme cet enfant de tout à l'heure, envie d'entrer dans cette armoire et de pénétrer dans ce monde extraordinaire de Narnia?
J'aurais plutôt envie de me mettre dans le fauteuil de C.S. Lewis, qui est ici.
Oui, parce qu'il y a toute une série d'autres objets dans cette salle qui ont appartenu, semble-t-il, à C.S. Lewis.
C'est ça, il y a son bureau. Et il y a plusieurs tiroirs des deux côtés, fauteuils avec deux accoudoirs qui semblent très confortables.
Et sur le bureau, il y a une sculpture du visage de C.S. Lewis.
Oui, une sculpture en bronze qui est d'ailleurs très bien faite, une très belle ressemblance. C.S., les abréviations pour Clive Staples Lewis, deux prénoms qui ne sont pas communs.
Alors Gilbert Bilezikian, on se trouve ici juste à la gauche de l'armoire, devant une sorte de grand panneau qui présente différentes choses et notamment quelques photos de C.S. Lewis.
Oui, des photos lorsqu'il était enfant et là jeune avec sa bicyclette et son grand frère. Des photos de l'ancien temps, bien sûr en noir et blanc.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ici une sorte de tableau qui représente le monde de Narnia. C'est en fait une carte du monde de Narnia.
Oui, alors cette carte est intéressante parce que C.S. Lewis avait fait une carte très simple, très stylisée.
Une sorte d'esquisse en fait de ce pays de Narnia.
Oui, de ce pays qui n'existe pas sauf dans son imagination et maintenant dans les livres. Et il avait proposé cette esquisse donc à cet artiste qui s'appelait Pauline Baynes. Et nous avons alors encadré, nous avons un magnifique tableau du monde de Narnia en couleurs. Il y a là des verts pour la mer et puis jaunes pour le désert et les endroits boisés, puis les montagnes au nord. Et puis au coin, il y a la figure, la tête d'Aslan, le lion.
Et on voit en fait toute une série aussi de petites figurines ou de petites illustrations qui illustrent, on voit ici la chaise d'argent, qui illustrent en fait chacune des sept chroniques de Narnia. Ce qui est intéressant aussi sur ce panneau, Gilbert Bilezikian, c'est qu'il y a en fait une lettre que C.S. Lewis a écrite, semble-t-il, à des enfants qui lui posaient une question. Est-ce que vous pourriez me résumer cette lettre ?
Oui, alors c'est une lettre écrite par Lewis lui-même et signée par lui en réponse à une question que des enfants américains de l'État de Maryland lui avaient écrite, des enfants de 10 ans. Et il lui avait demandé, d'après ce qu'on peut lire ici, il lui avait posé la question à C.S. Lewis, est-ce que ce pays de Narnia existe réellement ? Alors, cette lettre est datée de 1954. Elle a été écrite à Oxford par Lewis. Et dans cette lettre, qui est très gentille, il explique... D'ailleurs, c'était l'habitude de Lewis de répondre aux lettres qu'il recevait, surtout de la part des enfants. Alors, dans cette lettre, Lewis explique ce qu'est le monde de l'imagination. Et il dit, supposer qu'il y aurait un pays qui s'appelle Narnia, et là apparaît le Fils de Dieu. Mais sous quelle forme? Et alors, il parle du lion, d'Aslan, qui correspondrait donc dans ce pays à ce qu'est le Christ dans notre monde. Ensuite, ce qui est intéressant, elle lui avait demandé une description de lui-même, ses enfants, et il se dit étant grand, gros, un peu...
chauve.
Un peu chauve, figure rouge.
Avec un double menton, c'est ça.
Avec un double menton.
Et des cheveux noirs.
Des cheveux noirs, et puis...
Et avec une voix profonde, une voix basse.
Et puis, lorsqu'il lit, il porte des lunettes. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant là, c'est que pour couronner, en fait, cette sorte de grand tableau ici autour de C.S. Lewis, c'est qu'il y a une peinture d'un lion, assez réaliste comme cela, mais du plus bel effet.
Immense d'ailleurs, 1,5 mètre à peu près de haut et 1,25 mètre peut-être de large et la tête d'un lion. Mais avec quelque chose un peu d'humain dans cette tête de lion, très jolie, pas féroce du tout. Il y a une douceur dans l'expression du visage du lion qui est remarquable.
Gilbert Bilezicki, on se trouve toujours au Wade Center. On est ici devant une sorte de grande vitre qui comprend 7 portraits d'auteurs qui ont associé à la fois démarche littéraire et foi chrétienne. Il y a bien sûr C.S. Lewis, mais il y a d'autres auteurs. Lesquels?
Parmi ces noms, ce que vous reconnaîtriez, c'est le nom de Charles Williams, celui de J.K. Chesterton.
C'est peut-être un auteur que l'on connaît un petit peu en Europe. Est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire qui il était?
Gilbert K. Chesterton était un auteur qui a écrit au début du XXe siècle. C'était d'abord un journaliste qui était anti-chrétien et puis ensuite il s'est converti à la foi et est devenu catholique. Et il a fait une œuvre d'apologétique considérable.
Oui, on dit qu'il a écrit près d'une centaine de livres, et notamment un livre qui concerne François d'Assise.
Oui, en effet, une histoire de François d'Assise qui est bien reconnue. Et puis ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle « Orthodoxie ». Et puis une autre, « L'homme éternel », qui sont traduits, je suis sûr, et sont traduits en français.
Alors, il y a d'autres portraits juste devant nous. Il y a peut-être quelqu'un qu'on connaît un peu en Europe à cause justement de C.S. Lewis, c'est George MacDonald.
MacDonald, lui, était un auteur aussi qui a précédé C.S. Lewis, mais qui a beaucoup influencé la pensée de C.S. Lewis. C'était un universitaire, c'était un académique. Et... lui, il était très calviniste, mais il comprenait d'une manière très personnelle aussi l'amour de Dieu pour l'humanité et pour chaque individu. Et c'est cette approche personnelle de la foi, cette démarche qui concerne l'individu, qui a beaucoup impressionné C.S. Lewis.
Alors, au-delà de George MacDonald, il y a quelqu'un que l'on connaît tous en Suisse et dans le monde francophone, c'est bien entendu Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux.
Tolkien qui est décédé en 1973 et qui était aussi professeur à Oxford University. Oxford à cette époque-là était comme un centre d'inspiration d'œuvres chrétiennes. Il y avait plusieurs de ses penseurs qui enseignaient à Oxford. Lui était né en Afrique du Sud d'ailleurs et puis lui aussi était un catholique. Il a fait une œuvre considérable qui aujourd'hui est représentée dans le monde du cinéma.
Ce qui est intéressant, là, juste derrière nous, Gilbert Bilezikian, il y a quelques objets qui ont appartenu à ces écrivains qui sont ici dans le Wade Center. Et il y a bien entendu quelques objets qui ont appartenu à C.S. Lewis. Qu'est-ce qu'on voit là dans cette petite vitrine?
Bien d'abord, on voit la pipe de C.S. Lewis, une pipe bien culottée. On voit la marque de ses dents au bout de la pipe.
Ce qui est intéressant, c'est que manifestement, C.S. Lewis était très british parce qu'en même temps, il y a une petite théière et puis une tea mug, donc une grande tasse de thé avec dessus des chevaux gravés.
Oui, des chevaux en train de sauter à le steeple avec un chien de chasse. Très, très, très anglais tout ça, oui, en effet.
Gilbert Bilezikian, vous avez vous-même été enseignant au Wheaton College. Donc, le Wheaton College est l'institution proche du Wade Center qui la soutient. Est-ce que pour vous, en tant que professeur de théologie, c'est important qu'on puisse aujourd'hui développer l'imaginaire, développer, comme Tolkien, comme C.S. Lewis l'ont fait, des mondes parallèles où on entrevoit d'autres choses?
Je crois qu'il est très important de pouvoir employer des métaphores qui simplifient la compréhension de ce que nous croyons, du fait qu'il y a un monde qui est transcendant à notre réalité terrestre, et puis il y a un créateur. Nous avons une origine en tant qu'être humain dans la volonté de ce créateur, qu'il y a une voie pour nous en tant qu'humains à suivre, et qui est de se soumettre à la volonté de ce créateur. Et je crois que ces auteurs ici ont un rôle très important à jouer dans ce qu'ils peuvent, par le monde imaginaire, expliquer certains éléments de cette foi à des gens qui ne la comprennent pas ou à des gens qui la comprennent et qui sont soutenus par leur vision.
Est-ce que vous-même, vous avez eu l'occasion avec vos enfants de pratiquer les Chroniques de Narnia?
Eh bien, eux, ils ont lu ces livres lorsqu'ils étaient très, très petits, lorsqu'ils avaient 8-10 ans. Ils y sont encore beaucoup attachés. Ils ont les vidéos qu'ils voient chez eux de Narnia et puis de l'anneau du Seigneur des Anneaux et de ses livres. Et ça joue pour eux une place importante dans leur vie, oui.
Est-ce que dans le cadre du Wheaton College, donc de cette université protestante tout près de Chicago, on encourage justement la créativité du point de vue littéraire, on encourage cette manière d'essayer de dire des choses essentielles de la foi chrétienne de manière romancée, au travers de romans policiers ou d'autres œuvres de fiction?
Oui, en effet, nous avons plusieurs étudiants qui ont suivi cette voie et qui font une contribution à la culture chrétienne et à la culture non chrétienne, en particulier par l'utilisation des arts pour exprimer des aspects de la foi chrétienne qui ne s'expriment pas facilement verbalement.
Enseigne d'avis d'esprit, nous sommes cet après-midi à Chicago, et oui, à Chicago, dans un musée consacré notamment à l'écrivain anglais C.S. Lewis, l'auteur de ces fameuses chroniques de Narnia. Alors Serge Carrel, vous avez aussi rencontré l'un des responsables de cette institution.
Oui, il s'agit de Heidi Trudy, elle est effectivement responsable dans le cadre de la bibliothèque de ce musée. Alors j'ai d'abord voulu connaître les origines d'une telle institution, et on la retrouve au centre Wade à Wheaton, près de Chicago.
Thank you. Dr. Kilby was an English professor here at Wheaton College.
Le docteur Kilby était professeur d'anglais au Wheaton College. Il a lu les œuvres de C.S. Lewis dans les années 1940 et il est tombé amoureux de cet auteur. Il a entamé une correspondance avec Lewis et à la mort de Lewis, c'était au début des années 60, le docteur Kilby a proposé à cette université de constituer une collection. Lui-même a commencé à collecter les éditions originales de ses livres et sa correspondance. Il a aussi commencé à développer des relations avec des gens qui connaissaient Lewis. C'est à partir de là que notre collection a grandi.
Combien est-ce que vous avez de pièces maintenant qui sont directement rattachées à C.S. Lewis?
Nous avons la bibliothèque personnelle de C.S. Lewis qui comprend 2300 livres. Parmi ceux-ci, beaucoup sont annotés dans les marges ou dédicacés de sa main. Et nous avons aussi plus de 2300 lettres, toujours de sa main, qui nous ont été données au fil des années. Nous disposons de certaines collections importantes de lettres, comme celle adressée à Arthur Greaves. Nous avons donc des collections importantes de correspondances que C.S. Lewis a entretenues au fil des années. Au centre Wade, nous avons à peu près 50 000 livres, notamment les diverses éditions des livres des sept auteurs auxquels nous nous intéressons particulièrement, y compris les œuvres de Lewis. C.S. Lewis est probablement la pierre angulaire de notre collection. Beaucoup de visiteurs viennent voir ici l'armoire de Lewis que nous avons achetée lors d'une vente aux enchères quelques années après sa mort. Cet achat remonte aux années 70. Nous avons aussi le bureau de C.S. Lewis, son fauteuil et sa table à manger que nous avons longtemps utilisé comme table de recherche dans nos anciens locaux. Aujourd'hui, elle fait partie de la collection de notre musée.
Est-ce que vous avez beaucoup de chercheurs en littérature qui viennent ici pour essayer de relire C.S. Lewis, pour voir un peu dans quel univers de livres il se trouvait?
Oui, beaucoup de chercheurs viennent voir les pièces uniques de notre collection. Ils viennent aussi parce que nous avons une collection organisée d'ouvrages, des dissertations, des thèses et des travaux post-grade. Les chercheurs peuvent venir au centre Wade pour consulter des documents de première et de seconde main pour leurs recherches, et tout cela dans une même collection. Même si l'Université d'Oxford dispose de documents uniques dans ses bibliothèques, il y a des choses que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs, sinon chez nous, la bibliothèque personnelle de C.S. Lewis étant l'un de ses éléments.
Quels sont les liens que vous entretenez avec le Wheaton College? Est-ce que c'est important pour une telle université d'avoir un fonds C.S. Lewis ici?
C.S. Lewis était un penseur respecté. La communauté du Wheaton College sait que nous avons un trésor ici. De nombreux professeurs en bénéficient parce qu'ils enseignent C.S. Lewis. Il est loin d'être le seul auteur respecté sur lequel on travaille dans cette université, mais il nous donne un trésor unique qui fait que des gens viennent d'un peu partout pour l'apprécier. C'est donc notre mission au centre Wade de continuer à promouvoir l'étude et la joie de fréquenter l'auteur que fut C.S. Lewis.
To continue to promote scholarship and enjoyment of C.S. Lewis as an author.
Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les étudiants sont vraiment intéressés par C.S. Lewis?
Ils continuent de l'être. De nombreux étudiants viennent ici, soit pour leurs travaux durant leurs études, soit pour leur thèse de maîtrise. Nous avons même des étudiants qui viennent dans la salle de lecture juste pour s'asseoir et pour passer un agréable moment de lecture. Donc, à quelque niveau que les étudiants se trouvent, ils continuent d'en pincer pour C.S. Lewis.
Serge Carrel, c'était votre reportage au musée-bibliothèque de Wheaton College consacré à C.S. Lewis. Reportage parce que le musée, lui, est plus large, on l'a bien compris. Peut-être un mot, d'abord sur ce musée, c'est curieux, c'est une sorte de panthéon, on retrouve toute une série d'auteurs. C'est pas un panthéon vraiment confessionnel, mais c'est un panthéon religieux, au fond.
Un panthéon d'écrivains qui ont associé de manière assez directe à leur démarche littéraire des convictions chrétiennes qu'ils ont laissé respirer dans le cadre de leur production littéraire. Et là, il y a quelque chose d'assez fort sur place. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a comme ça rassemblé de manière très... Puisqu'il y a des catholiques, il y a des protestants, des gens de toutes sortes, des anglicans, des gens de toutes sortes de sensibilités qui sont là. Mais des gens qui, dans leur démarche littéraire, ont vraiment essayé d'être des témoins, on peut le dire, des témoins du Christ, concrètement.
Sans doute cette tradition plus vivace aux États-Unis d'apologétique chrétienne qu'ici, sur le vieux continent. Il nous faut aussi peut-être s'arrêter quelques instants sur ce Wheaton College. Vous avez, si j'ai bien entendu, parlé d'un collège protestant. Alors, c'est quoi? C'est que les protestants qui y vont? Tout le monde peut y aller? On se forme à quoi?
Alors, on se forme à toutes sortes de disciplines, puisque ça va de la théologie jusqu'aux sciences appliquées les plus diverses, biologie, techniques diverses, psychologie aussi, sport et musique. Du point de vue concret, c'est effectivement une université protestante. On est là-bas entre 18 et 22, 23, 24 ans. Il y a comme condition d'entrer dans cette université le fait d'être engagé dans la foi.
Donc, là, c'est un peu confessant.
C'est très, je dirais que c'est même très confessant. Et ça veut dire que dans le paysage des universités américaines, c'est une université qui a passablement la cote. C'est effectivement très cher de s'y inscrire. Et c'est manifestement une certaine élite protestante, mais protestante compris dans un sens très large, dans le sens où vous avez des anglicans, des presbytériens, des réformés, des baptistes.
Et des gens politiquement de gauche et de droite, si on peut dire ça comme ça.
Effectivement. Alors, et au niveau des profs et au niveau des étudiants. D'ailleurs, des études sur place montrent que les étudiants sortent de cette université politiquement plus à gauche que ce qu'ils y sont.
Alors, on revient au film. Ce film qui a suscité pas mal de discussions, notamment parce que certains y voyaient une sorte de catéchisme chrétien distillé par les studios Disney, mais peut-être se racheter, je ne sais pas. Vous qui avez vu le film, c'est votre impression ?
Non, pas du tout, dans le sens où mon impression la suivante, c'est qu'on peut tout à fait entrer dans ce film, le voir sans partager la vision du monde d'un C.S. Lewis, il n'y a aucune perspective catéchétique, on entre dans un conte de fées et concrètement on y est bien et on s'y déploie avec beaucoup de plaisir sans nécessairement toujours tisser des liens. Si on est intéressé à la démarche d'un C.S. Lewis, alors là c'est clair qu'on peut voir et on peut s'amuser à essayer de détecter quelles sont les dimensions chrétiennes qui suintent de ce film, notamment la dimension christique que l'on peut essayer de discerner derrière le roi Aslan. Et ça, c'est intéressant.
À chacun d'aller se faire une opinion, au fond, mais pour vous, la polémique n'a pas lieu d'être.
Non, dans le sens où il n'y a pas de catéchisme qui est distillé via ce film. C'est un film qui se prête à toutes sortes d'interprétations, mais l'interprétation chrétienne étant peut-être l'interprétation la plus autorisée, puisque C.S. Lewis...
Puisqu'il se réclamait de la foi chrétienne. Alors, on a entendu ces derniers jours qu'au vu du succès rencontré par le film, alors succès sans doute aux États-Unis, parce qu'ici, ça vient de sortir, qu'au vu de ce succès autour de cette première chronique de Narnia, on connaît Hollywood et Disney, d'autres se présentent à l'horizon.
Alors il semble, c'est ce que Disney annonce, ça marche bien aux États-Unis, il y a cette chronique, donc il semble que pour 2007, pour Noël 2007, on aura droit au Prince Caspian, la deuxième de ces chroniques de Narnia, alors, et peut-être d'autres encore à venir.
Noël 2007, on prend rendez-vous déjà. Merci Serge Carrel. Plus d'infos sur notre site rsr.ch/esprit. Une réaction, un commentaire de votre part, sans problème, au 021 318 60 70. Prochain rendez-vous des émissions religieuses demain soir pour la soirée de Noël d'Espace 2, en direct de la chapelle des Terreaux à Lausanne, avec... on entend les quelques notes qui nous incitent et nous invitent à cette soirée, avec une soirée gospel, une dernière représentation du gospel de Mahalia avec la magnifique Flavie Crisinel. Un spectacle pour lequel il reste encore d'ailleurs des places. Et puis bien sûr d'autres propositions. Il se trouve, Serge, que c'est vous qui participerez à cette soirée, présenterez différents reportages. Un mot sur la soirée.
Effectivement, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Chicago pour non seulement visiter ce petit musée, mais encore pour rencontrer les différentes communautés noires. Et avec Jean-Marc Falcon-Bello, on aura l'occasion d'entrer dans ce monde des communautés noires, dans ce monde du gospel et du Negro Spirituals, tout en goûtant à cette pièce de théâtre signée Jean Cholet et intitulée Le Gospel de Mahalia.
Pour nous faire envie, il y a d'autres styles de gospel qui émergent aux États-Unis.
Ah oui, alors ça, c'est effectivement, ici en Suisse romande, on est très orienté sur un gospel très traditionnel à la Mahalia Jackson, mais il y a toutes sortes d'autres formes de gospel et on aura l'occasion, au travers d'une carte postale sonore, de pénétrer dans différentes communautés religieuses, communautés chrétiennes noires, pour goûter la saveur du gospel qui bouge.
Merci Serge. Après cette soirée, bien sûr, recul de l'envoyé, messe de minuit. Merci de votre attention. À tous et à toutes, nous souhaitons de belles fêtes de Noël. Bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série d'émissions en vue d'esprit autour de l'art du romancier et l'art du mentir vrai. Au revoir.
Les 4 et 5 septembre, Neuchâtel accueillait la 14e Schubertiade d'Espace 2. Revivez les meilleurs moments de cette grande fête de la musique. Le CD de la Schubertiade vient de paraître avec une quinzaine de concerts sélectionnés. Vous pouvez commander le CD de la Schubertiade d'Espace 2 en appelant la boutique RSR au 0848 848 330, 0848 848 330 ou sur internet www.rsr.ch.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.